Hola.
Buongiorno a tutti.
Hello.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission de RCF Chez nous l'Europe. Je suis Victoire Delemeau du Lab Lisieux Normandie et aujourd'hui nous retrouvons Stéphanie Yoncourtin, députée européenne depuis 2019. Bonjour, vous allez bien ?
Oui, bonjour, bien et vous Victoire ?
Ça va très bien, merci. Merci également d'être avec nous, à distance cette fois pour des raisons pratiques. La dernière fois nous avions parlé du conflit France-Angleterre relatif à la pêche suite au Brexit. Un mois après, les tensions sont toujours d'actualité. L'Angleterre estime avoir tenu sa part du marché en accordant les licences aux pêcheurs français qui rentraient dans les cases. La France, qui promettait des mesures de rétorsion, les a pour le moment mises en stand-by. Beaucoup d'agitation en somme. Quelles sont les nouvelles propositions de la part des Britanniques ?
Il y a peu de propositions. Le seul point positif à ce stade, c'est que les Britanniques ont accepté de discuter. Donc, on n'a pas de propositions concrètes, même si bien évidemment les discussions se poursuivent, à la fois sur le plan technique, pour étudier au cas par cas les difficultés encore qui sont posées par certaines problématiques de licence, et puis des discussions également politiques pour que... il y a encore justement ce principe de l'accord qui perdure, en tout cas de discussion, pardon. Et donc, c'est vraiment une discussion sur la méthodologie pour prouver l'antériorité de la pêche des navires européens dans les eaux britanniques et les îles anglo-normandes. Bon, bah, notre objectif, nous, il est clair. Hein, on a demandé un peu moins de 400 licences au total et il en manque encore 200. Donc, on en veut le maximum. Et le compte n'y est toujours pas, même s'il y a eu des signaux à la fois de discussion et de la part de Jersey, qui a, en début de semaine, accordé 49 licences, mais qui sont, à ce stade, encore provisoires, et on voudrait des définitives.
Et quelles actions ou sanctions la France pourrait-elle donc mettre en place ? Et est-ce qu'il y a des dangers si la France met en place ces sanctions ?
Alors oui, il y a déjà des mesures de rétorsion qui ont été annoncées et qui sont pour le moins suspendues, tant que les discussions se poursuivent avec les Britanniques. Parmi ces mesures de rétorsion, il y a notamment la limitation, voire l'interdiction des débarques des navires britanniques dans certains ports français. C'est-à-dire que concrètement, les pêcheurs britanniques pêchent 75% de poissons dans les eaux britanniques qui viennent écouler régulièrement sur notre territoire et dans l'Union européenne. Et donc, ça veut dire que si on suspend pour ces pêcheurs ces débarques, eh bien, c'est pour eux un énorme cauchemar économique. Ça l'est aussi pour nous, c'est un danger, parce que nous avons des grossistes, des mareyeurs, des poissonniers qui doivent aussi pouvoir écouler ce poisson. Et donc, s'ils n'en ont plus, s'il n'y en a pas qui arrivent du Royaume-Uni, eh bien, dans ce cas-là, ils vont être privés de marchandises à vendre. Donc, les mesures de rétorsion, elles sont impactantes également pour nous. Il y a également des renforcements des contrôles de sécurité et des contrôles de sécurité qui vont être systématisés pour les navires britanniques, des contrôles aux frontières intensifiés, notamment pour les camions qui proviennent du Royaume-Uni et qui vont au Royaume-Uni, ce qui n'est pas également sans poser problème puisque ça alourdit et rajoute des délais. Et puis, à plus long terme, une autre salve de mesures est envisagée notamment sur l'énergie. Si les Britanniques refusent vraiment de coopérer, il ne s'agit pas encore de couper l'électricité à Jersey, mais de travailler par exemple sur l'augmentation du prix de l'approvisionnement.
En tout cas, ce qui bouge, c'est votre rapport sur le Digital Markets Act. On l'avait déjà évoqué, mais vous travaillez sur la taxation des géants du numérique, les GAFAM. Vous avez récemment présenté ce rapport pour qu'il soit voté à la commission ICON. Alors, comment ça s'est passé ?
Écoutez, ça s'est bien passé finalement parce que le résultat était vraiment au-delà même de mes attentes puisqu'il a été très largement voté, hein, à près de plus de 95% soit favorable. Et pourtant, c'est une première étape. Il y a vraiment un impact très concret, hein, ce rapport pour les citoyens, pour les Normands, parce que les GAFAM, alors peut-être les GAMAM maintenant puisque Facebook aurait changé de nom, mais je pense pas qu'il change pour l'instant de pratique, eh bien, ils dépensent tous les ans dans leur action de lobbying 100 millions d'euros pour essayer d'influer et de faire en sorte que on ne régule pas leurs pratiques. La problématique, c'est qu'ils ont une taille, sont des mastodontes extraordinaires, et donc avec leur taille, il faut qu'ils aient, et avec ce pouvoir très important, une responsabilité accrue. Et vous savez que les nombreuses plateformes qu'on connaît, hein, par exemple Amazon, ne sont pas de simples intermédiaires qui vont relier l'offre et la demande, mais ils ont créé des réseaux tentaculaires, hein, dans leurs services, et ils agissent vraiment comme des gardiens pour empêcher des millions d'autres petites entreprises qui pourtant n'ont pas de choix, d'autres choix que d'utiliser leur seule plateforme, mais les petites entreprises sont véritablement empêchées, limitées dans leur développement de leur marché par ces gros géants qui vont finalement pomper leurs données, les données de leurs clients, et donc ça va accroître davantage le pouvoir de ces GAFAM au détriment de ces petites entreprises. Et donc, elles ont vraiment cet accès privilégié aux données, ces GAFAM, mais ça peut être Google, Facebook, Apple, et donc, finalement, elles vont, à travers les transactions des acteurs qui finalement sont leurs partenaires commerciaux sur leur plateforme, elles vont récupérer ces données, et donc elles savent que les autres entreprises proposent et vendent, elles savent ce que les consommateurs recherchent, et donc, en un mot, elles utilisent leur pouvoir pour fixer leurs propres règles du jeu. Et bon, elles vont décider des conditions d'utilisation de leur service, de qui peut ou ne peut pas entrer sur leur marché. Par exemple, le marché du moteur de recherche. Eh bien, quand vous recherchez un produit sur le moteur de recherche de Google, en général, vous n'allez pas jusqu'à la 24e page. Or, pourtant, les référencements qui sont faits par Google ne sont pas forcément des référencements qui sont très objectifs en fonction du meilleur produit au meilleur prix pour vous, mais des référencements qui sont effectués par Google en fonction de ses partenaires privilégiés qui voudraient mettre en avant dans la première page ou les premières pages. Donc, vous voyez, cette toute-puissance, elle doit cesser, c'est-à-dire que il n'est pas question d'interdire les GAFAM, mais c'est leur pratique qui doit être interdite. C'est à la puissance publique de fixer les règles et non pas à ces GAFAM. Et c'est tout l'objectif du DMA, le Digital Market Act, pour limiter le pouvoir des géants du numérique, en rétablissant l'équité, en ouvrant les marchés, pour que plein de petits acteurs puissent émerger et qu'ils ne soient pas verrouillés, empêchés, par exemple, d'aller vendre des choses sur Amazon et qui peuvent justement eux aussi développer, qui puissent développer leur marché. Et la panne Facebook, hein, il y a 3 semaines, nous a montré qu'on a vraiment besoin d'alternatives et d'options sur le marché numérique parce que on est dépendant de une poignée de géants du numérique, quels qu'ils soient. Et l'idée, c'est d'avoir un marché plus ouvert, plus diversifié, et on doit diversifier le nombre d'acteurs par des règles, par une réglementation pour avoir une concurrence plus loyale. Et effectivement, la panne de Facebook et de ses services montre que la politique de concurrence est essentielle pour garantir justement la résilience des infrastructures numériques. Et donc concrètement, le DMA, il va aussi bien bénéficier aux consommateurs qu'aux entreprises utilisatrices de ces plateformes. Je vais vous citer 2 exemples. Par exemple, actuellement, Google paie des millions d'euros à Apple pour que son moteur de recherche soit installé par défaut sur tous les iPhones. Dès que vous achetez un iPhone, vous avez la préinstallation de Google comme moteur de recherche. Ça laisse pas le choix au consommateur. Dès le début, le consommateur est piégé dans un écosystème qu'il est très difficile ensuite de quitter. L'objectif du DMA, c'est justement d'interdire cette auto-préférence de ses propres produits pour permettre à d'autres entreprises de proposer leurs services sur un même pied d'égalité, de permettre aux consommateurs de choisir. Il souhaite que ce soit Google qui soit configuré sur son téléphone portable, pas de problème, mais il souhaite peut-être en avoir d'autres. Donc, d'autres moteurs de recherche vont proposer des modèles basés sur meilleur respect de la vie privée ou d'écologie. Et le problème, c'est qu'ils ne parviennent pas, à cause de ce qu'on appelle les gatekeepers, de ces contrôleurs d'accès, ne parviennent pas à pénétrer ces marchés numériques. Un autre exemple, les entreprises, et notamment les PME, sont utilisatrices des services de plateforme Amazon. J'en ai parlé, c'est une formidable opportunité hein, pour les entreprises, pour aller vendre partout et pour tous, et notamment la crise du Covid a montré à quel point les consommateurs, qu'on est tous, sommes parfois friands d'aller acheter en ligne. Mais Amazon a un double rôle. Et elle se sert des données générées par ses vendeurs, ses partenaires, pour ensuite proposer ses propres produits sur sa plateforme et concurrencer directement toutes les PME utilisatrices. Ça doit être interdit.
Et concrètement, donc, si ce rapport est adopté et mis en pratique, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces grosses sociétés décident d'augmenter le prix de leurs services ou de leurs produits en vengeance, en quelque sorte ?
Alors, oui, c'est-à-dire, elles le font déjà. parce que il n'y a pas de concurrence. Et donc, elles sont les seules sur ces marchés-là, donc elles le font déjà comme elles sont incontournables. Après, la fixation du prix, elle réside de l'offre et la demande. Donc, l'objectif, c'est que si on a plus d'entreprises sur le marché, par exemple, du moteur de recherche, eh bien, on peut espérer que, justement, elles soient empêchées de le faire.
Autre nouveauté du côté du Parlement européen, Stéphane Séjourné a été élu président du groupe d'eurodéputés Renew Europe, dont vous faites partie. C'est la troisième force du Parlement européen. Quelles sont les promesses de Stéphane Séjourné pour l'Europe ?
Bah, il a déjà fait beaucoup et j'en suis très ravie. Moi, je suis vraiment ravie que Stéphane Séjourné soit notre président du groupe Renew, qui est vraiment la troisième force du Parlement européen, à la suite du départ de Dacian Ciolo, qui est promis notamment à devenir Premier ministre en Roumanie. Il ne présidera plus la délégation Renaissance, Stéphane, mais bien évidemment sera toujours membre et aura un poids encore très important. Et bien en fait, Stéphane, il va continuer l'ambition qu'on a portée avec lui depuis 2019, qui est vraiment de renouveler, de rassembler et de renouveler un Renew et de faire renaître l'Europe, c'est-à-dire vraiment poursuivre l'ambition dans l'initiative et la mise en œuvre de grands chantiers pour d'abord renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne à travers le pacte vert, le Green Deal, le plan de relance, la défense de l'état de droit. Et il va fixer également le mi-mandat et 2024 avec des objectifs importants pour notre famille politique, qui est finalement la famille politique la plus européenne du Parlement européen. Notre groupe est troisième et vraiment la charnière est barissante, c'est-à-dire que rien sur notre groupe ne peut se faire puisque les deux autres groupes politiques les plus importants n'ont pas la majorité à eux seuls. Et donc, véritablement, il y a un enjeu très important. Et donc, Stéphane est pour nous une vraie chance.
Je voulais aussi parler avec vous de la PAC, la politique agricole commune mise en place à échelle européenne. Elle a récemment été réformée avec un plan s'étalant de 2023 à 2027. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles mesures ont été décidées ?
Oui, d'abord, le Parlement européen effectivement a trouvé un accord avec les 27 États membres dans le cadre de ce qu'on appelle un trilogue. Le trilogue, c'est les négociations qui ont lieu entre les trois institutions trilogue, donc c'est-à-dire le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil qui réunit les 27 États membres. Ça s'est fait le 25 juin dernier. L'idée est de doter la PAC d'un budget conséquent. Et là, je salue mon collègue Jérémy De Serres, qui est agriculteur, ancien président des Jeunes Agriculteurs de France, qui a vraiment fait en sorte qu'on puisse avoir un budget conséquent. Donc, c'est un tiers du budget européen qui, sur la période 2021-2027, va représenter 387 presque milliards d'euros. Et c'est une vraie bataille qui a été gagnée parce que, initialement, la Commission européenne avait fait une proposition à la baisse. Au-delà du budget, il y a des mesures. Sans rentrer dans les détails, moi, je voulais mettre en avant quelques mesures phares que la délégation Renaissance a portées. Par exemple, le fait de prendre en compte le nombre d'agriculteurs actifs. Les aides pourront être basées là-dessus plutôt que d'être uniquement basées sur l'hectare. C'est-à-dire qu'on doit cibler les agriculteurs et éviter uniquement de se baser sur ce que représente ce sur quoi travaillent. C'est un peu les bénéficiaires parasites et donc uniquement une référence directe uniquement sur un hectare et sur des parcelles de terre. Donc, c'est vraiment l'agriculteur actif qui doit être au centre des aides qui lui seront accordées. Ensuite, tous les acteurs pourront bénéficier de programmes opérationnels, alors qu'ils ne concernaient que certains secteurs auparavant. Donc, ça, c'est important. Si un agriculteur veut développer son marketing, par exemple, et on sait que c'est important pour celui qui veut faire du commerce à la ferme direct, eh bien, le marketing autour de ça, la communication, pourra bénéficier d'aide. Donc, ça, c'est important. Il y aura aussi une nouvelle réserve pluriannuelle pour soutenir les secteurs en difficulté. Donc, il y a une vraie aide autour des agriculteurs à la fois en difficulté et un doublement des aides pour les jeunes agriculteurs avec plus d'aides pour les petites et les moyennes exploitations. Et donc, on a vraiment une PAC qui répond mieux aux besoins des agriculteurs et puis aussi qui permet de créer des vocations dans un secteur qui est toujours très important stratégiquement pour notre autonomie européenne, qui est vraiment une formidable pépite en France, mais dont on voit de nombreux, une crise un peu des vocations parce que c'est très difficile et c'est la fille d'un agriculteur qui vous parle. Donc là, moi, je suis ravie de porter ces couleurs-là aux côtés de la délégation. Et puis, en fait, il y a aussi, peut-être je vais vous laisser parler, mais il y a aussi d'autres sujets de conciliation d'enjeux très important entre l'écologie et l'agriculture.
En effet. Et comment est-ce qu'on fait pour concilier écologie et enjeux agricoles? Vous étiez en train de le dire, justement.
Tout à fait, il me semblait bien qu'on allait y venir. Donc ça, c'est un point important parce qu'on a eu pour habitude ces dernières années, ces derniers temps, d'opposer, de cliver. Opposer écologie d'un côté, agriculture de l'autre, et parfois aussi économie. Et il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été faites sur l'insuffisance sur le niveau environnemental. Alors, il y a toujours des voix qui demandent à en faire plus et puis d'autres qui trouvent que c'est jamais assez. Et à mes yeux, moi, la nouvelle politique agricole commune, elle, c'est vraiment un point d'équilibre entre ces deux demandes. Et on a eu justement à travers ça un travail conjoint de mes collègues Jérémy De Serles et Pascal Canfin. Pascal Canfin étant président de la commission environnement au Parlement européen. C'est un vrai symbole parce que on avait tendance à opposer. Or, on est vraiment dans la fin des silos et le travail ensemble. Et donc, concrètement, je pense notamment au nouveau régime d'incitation. Il généralise notamment à toutes les règles écologiques de l'ancienne PAC. Il est généralisé à toutes les règles écologiques de l'ancienne PAC. C'est obligatoire uniquement pour 30% des aides avant. Puis il rémunère aussi les exploitations les plus dynamiques et volontaires grâce à des éco-régimes. Et donc ça, c'est important parce que il y a vraiment une incitation pour les agriculteurs à faire plus en matière d'éco-protection et d'écologie. Et c'est vraiment cette plus grande ambition écologique qui est associée à une augmentation du revenu des agriculteurs européens. Et donc, on doit marcher un plus, en fait, sur ces deux jambes pour ne pas fragiliser notre secteur européen.
Merci Stéphanie Yoncourtin pour toutes ces informations et pour votre présence sur RCF. À bientôt.
Allô.
Voilà.
Bonjour à tous.
Hello.
Bonjour.